Chapitre 1er. La question du sens commun. La philosophie face à l'ignorance. Les citoyens d'Athènes ne savaient pas que Socrate allait faire d'eux les repoussoirs permettant de justifier l'aventure de cette étrange entreprise que l'on appelle depuis la philosophie. Et j'ai été moi-même surprise de voir ce philosophe, radicalement atypique qu'est Alfred North Whitehead, reprendre à son compte cette vignette des origines si redoutablement typique. Ouvrez les guillemets. Socrate passa sa vie à analyser les présuppositions courantes du monde d'Athènes. Il reconnut explicitement que sa philosophie était une attitude face à l'ignorance. Fermez les guillemets. J'ai décidé de donner à cette surprise le pouvoir de me mettre au travail. Non qu'elle soit remarquable en elle-même, car il en est beaucoup de ce genre dans les textes de Whitehead, et il appartient à chaque lecture de se déterminer à leur sujet, d'en faire une raison pour une fin de non-recevoir, de sourire et de passer à la phrase suivante, ou alors de s'arrêter et de se faire intriguer. Au départ, lorsque j'imagine les citoyens d'Athènes pris au dépourvu par les étranges questions de Socrate, je ne peux m'empêcher de penser à ces affiches que je contemplais un jour dans un couloir du bâtiment de la Commission européenne, où se concentraient les fonctionnaires chargés des questions « sciences et société ». Ces affiches reproduisaient les résultats d'enquêtes d'opinion portant sur ce que les citoyens européens pensent de la science, et ces résultats, par l'absurdité des opinions exprimées, semblaient être là pour rappeler aux fonctionnaires l'attitude qu'il convient lorsque l'on a affaire à un troupeau d'ignorants invétérés, qu'il s'agit de faire semblant de respecter, mais qu'il faut d'abord gérer, pour son plus grand bien, évidemment. Les sondeurs, on le sait, comptent sur le fait que ce qu'ils appellent gentiment le citoyen lambda acceptera de répondre à des questions auxquelles il n'a jamais eu l'occasion de s'intéresser sans se demander dans quel jeu on le fait jouer. Leur activité dépend de la faiblesse des autres, qu'ils piègent sans scrupule, ce qui fait d'eux de simples escrocs. Mais Socrate, bien sûr, n'était pas un escroc. Il s'employait à convaincre les citoyens interpellés de l'ignorance dont témoignaient leurs réponses. Autre attitude, et c'est le terme « attitude » qui, ici, prend de l'importance. « Une attitude », écrit Whitehead, et celle de Socrate est en elle-même un thème philosophique. Il y a plusieurs Socrates possibles, plusieurs lectures de son « attitude » face à l'ignorance, et donc plusieurs figures des débuts de la philosophie. Il y a un Socrate maître de la porie, qui prétend n'avoir lui-même aucune réponse, qui cherche seulement à confronter ses interlocuteurs à la difficulté, peut-être insurmontable, de la formulation de cette réponse. Il est celui qui se sait ignorant. Et puis il y a le Socrate maître de Platon, pour qui la porie est une forme de propédeutique qui prépare les citoyens à accueillir un savoir transcendant les réponses divergentes qu'ils ont proposées. Il est celui qui invente la philosophie comme pacificatrice des discordes, donnant à la cité son orientation vers le bien, le juste et le beau véritable, au-delà des illusions. Et enfin, il y a le Socrate condamné comme empoisonneur de la paix publique, instillant le poison du doute. Wittgenstein aurait peut-être ratifié cette condamnation, lui, l'anti-Socrate qui passa sa vie à interpeller non plus les citoyens ordinaires, mais ses collègues philosophes accusés de propager la maladie des faux problèmes. Il peut y avoir plusieurs Socrates possibles, mais ceux à qui ils s'adressent sont toujours des citoyens ignorants, qui, priés de définir le vrai, le juste, le courage, proposent des cas, des échantillons qui, lui est-il facile de démontrer, entraînent des définitions divergentes. Socrate, poisson torpille, les éveille, dit-on, tente de partager avec eux son seul privilège, lui qui sait qu'il ne sait pas. Mais on peut dire aussi qu'il les sidère, qu'il les laisse stupides, convaincus de leur incapacité à savoir ce qu'ils disent, prêts à s'en remettre au philosophe qui les guidera. Ou alors qu'il les confronte à un défi qui est aussi un piège. Les mots ne veulent rien dire indépendamment de leur usage, qui réfère toujours à un jeu de langage particulier. Les citoyens d'Athènes n'étaient pas ignorants. Ils savaient tout ce qu'il y avait à savoir. Quelle serait l'attitude de Whitehead dans les rues d'Athènes? Dans Mode de pensée, il fait l'éloge de la pratique d'assemblage, sans cesse à reprendre d'époque en époque, et qu'il associe à ce qui est pour lui le propre de la philosophie. Elle ne peut rien exclure, ce qui change bien des choses. les différentes réponses que le philosophe recueille, aussi divergentes et partiales soient-elles, ne seront pas disqualifiées, réduites à témoigner de l'ignorance de l'interlocuteur du Socrate whiteadien. Elles feront partie d'un assemblage qui met le philosophe au travail, qui a le caractère du problématique, non pas problème à résoudre, car la bonne réponse éventuelle s'imposerait contre les autres, mais paysage partageable, mis sous le signe d'une perplexité que le philosophe a activée. Si Socrate ne s'était pas posé comme arbitre, jugeant et excluant, il aurait peut-être pu faire de la divergence qu'ont révélée ces deux mondes de définition une matière à préoccupation collective. Accueillir la perplexité qu'il a suscitée non comme un symptôme, mais comme une question qu'il partage avec ce que Whitehead appelle le sens commun. Ouvrez les guillemets, le sens commun, ruminant les aspects de l'existence, les remet entre les mains de la philosophie pour que celle-ci les élucide en leur donnant une compréhension cohérente. Fermez les guillemets. Voici donc une toute autre figure de l'ignorance. Les citoyens réveillés par Socrate n'en auraient pas abandonné pour autant comme sans valeur leur première proposition. L'interpellation de Socrate les aurait pris au dépourvu. Ils sauraient qu'ils se sont laissés surprendre par une question inusitée et que, en ce sens, démonstration a été faite de leur ignorance. Mais le savoir dont leur proposition témoignait, si son expression s'est révélée partiale, n'aurait pas été annulé pour autant. Il faut alors imaginer un Socrate qui a besoin que les citoyens d'Athènes ruminent, acceptent qu'il n'y a pas lieu de prêter autorité au lieu commun qui meuble la pensée courante, mais sans pour autant être prêt à renier les aspects de l'existence que leur proposition faisait importer. Que du contraire, leur rumination devrait activer ce sens de l'importance, la rattacher à un aspect de l'existence, un aspect qui appartiendrait à l'existence elle-même, irréductible à ce que nous avons pris l'habitude de renvoyer à la relativité du subjectif. Et donc Whitehead s'interdira d'utiliser la divergence des réponses pour nier leur valeur. Ouvrez les guillemets, l'attitude philosophique est une tentative d'élargir le champ d'application de toute notion qui entre dans la pensée courante. L'effort philosophique prend chaque mot et chaque tournure de l'expression verbale de la pensée et demande « qu'est-ce que cela signifie ?» Fermez les guillemets. Activer les mots. Les replonger dans des situations qui appartiennent à l'expérience courante sur un mode tel que cette expérience ne permette pas de les définir, mais reçoivent le pouvoir de les engager dans une aventure spéculative. C'est ce que Whitehead ne cessera de faire dans « mode de pensée ». Pas de métaphore ici, mais pas non plus de sens littéral. Il s'agit de dramatiser ce qui va sans dire lorsque nous disons quelque chose. Le déploiement quelque peu vertigineux de ce que suppose et affirme le plus limpide, le plus routinier des énoncés, dès lors qu'il n'est pas réduit à un énoncé, mais envisagé comme cet énoncé, toujours engagé dans cette situation, répondant à ce mode d'engagement dans la situation. Ouvrez les guillemets. La philosophie commence dans l'étonnement. Et au terme, quand la pensée philosophique a fait de son mieux, l'étonnement demeure. On lui a ajouté cependant une certaine saisie de l'immensité des choses et une certaine purification de l'émotion par la compréhension. Fermez les guillemets. Quand la pensée philosophique a fait de son mieux, le sens du mot étonnement a quelque peu changé. Au départ, il signifiait d'abord perplexité, face à une multiplicité discordante de significations demandant élucidation. Ce qui demeure, après que le philosophe s'est attaché à comprendre, est plus proche de l'émerveillement face à tout ce dont témoigne chaque aspect de l'existence. La réponse de la philosophie au sens commun qui rumine n'éradiquera pas, par sélection et hiérarchie, la discordance, et elle ne la pacifiera pas non plus en assignant à chaque aspect de l'existence un territoire soigneusement borné. De telles solutions ne sont pas celles qui suscitent l'émerveillement, mais plutôt la triste acceptation d'une finitude qui voue à penser sous surveillance, triomphe de la critique. Ouvrez les guillemets, la force de l'école critique réside dans le fait que la doctrine de l'évolution n'est jamais entrée, en un sens radical, dans l'érudition ancienne. De là provient la présupposition de la fixité de la spécification de l'esprit humain, et le squelette de cette spécification est le dictionnaire. fermez les guillemets. Si les citoyens d'Athènes avaient été armés d'un dictionnaire, que celui-ci donne une réponse fixe, qu'il définisse les règles du bon usage ou qu'il retrace philologiquement l'évolution plus ou moins arbitraire d'une signification, ils auraient pu répondre aux questions de Socrate. Mais ils l'auraient fait comme à l'école, c'est-à-dire sur un mode qui les aurait protégés de toute perplexité, de toute saisie de l'immensité des choses. Pouvoir répondre à la question de Socrate, qu'est-ce que ? Pouvoir définir ce que nous voulons dire lorsque nous disons « courage, bien, justice ». C'est produire un énoncé squelettique, car séparé de sa chair sensible, molle et corruptible. Le rêve du dictionnaire idéal, qui extrairait cela seul qui résiste à la critique, ne dégagerait pas ce qui est censé appartenir à l'esprit humain en tant que tel, indépendamment des sensibilités changeantes et divergentes. Éliminant ce qui renvoie aux passions, aux apparences, aux circonstances, cet esprit ne serait pour Whitehead qu'un automate, incapable de se tromper peut-être, mais aussi de comprendre. Ce qui résisterait à la critique ne serait que des abstractions mortes que l'on accepte de manière passive parce qu'elles ne suscitent aucune mise en branle de la pensée ou de l'imagination. Accepter la doctrine de l'évolution en un sens radical, c'est en revanche accepter une forme d'empirisme embrassant le changement comme primordial. L'évolution n'a pas produit des espèces qui seraient désormais fixes. Ce que nous appelons espèce, y compris celle que nous appelons humaine, n'a d'autre vérité que la stabilité relative de quelques traits qui nous permettent de les caractériser et de les classifier, non de comprendre ce que peuvent les réalités individuelles ainsi identifiées. Et cela signifie, alors, accepter d'abandonner l'idée que la pensée a besoin de références fixes pour échapper à la confusion ou à l'arbitraire. Et donc, c'est ôter son pouvoir à la critique lorsqu'elle demande des comptes, exige des garanties, pourchasse ce qu'elle appelle croyance. Pour Whitehead, pas plus qu'il n'y a d'espèce humaine à l'identité fixe. Il n'y a de définition stable du sens commun, un sens commun sur lequel il serait possible de fonder un consensus ou auquel il s'agirait au contraire de résister. Il ne sera donc pas ici question de définir le sens commun, sinon plus d'envisager une quelconque philosophie du sens commun et encore moins d'en faire un attribut de l'humain. Whitehead a fait du sens commun une contrainte pour la philosophie. C'est une contrainte parce que la philosophie, telle qu'il l'entend, se doit de refuser la liberté à laquelle s'adonnent les pensées spécialisées qui rejettent ou excluent ce qui est incompatible avec leurs présupposés et qui, le cas échéant, se glorifient de scandaliser le sens commun. Mais respecter une contrainte, ce n'est pas respecter une limite, c'est refuser une facilité. Et la facilité ici serait d'accepter une variabilité sans enjeu, de renvoyer la question « qu'est-ce que cela signifie ?» à l'arbitraire du moment. L'évolution pour Whitehead n'est ni un progrès qui mène jusqu'à l'homme, ni non plus une histoire arbitraire, objet de simples constatations. Aventure est son maître mot, et il appartient à la philosophie de consentir à l'aventure, c'est-à-dire d'y participer. La philosophie, selon Whitehead, a pour tâche de souder le sens commun et l'imagination. L'originalité de Whitehead en tant que philosophe se situe donc dans son rapport spéculatif au sens commun. Celui-ci n'est pas seulement une contrainte, mais aussi un enjeu. Le sens commun, s'il doit pouvoir être soudé à l'imagination, doit être capable de ruminer. C'est-à-dire de ne pas se laisser faire, de ne pas accepter avec docilité la disqualification de ce qui lui importe. Il ne peut être réduit à ce dont les philosophes parlent, ce qu'ils définissent, ce à quoi ils font jouer un rôle dans leur pensée, que ce rôle soit d'autorité ou de repoussoir. Mais la possibilité de souder. Whitehead emploie le verbe « to weld », qui implique une véritable opération métallurgique, est spéculative. Son enjeu est l'aventure, non le progrès. Elle implique que la philosophie n'a pas à apporter une réponse enfin satisfaisante aux ruminations du sens commun, mais à nourrir ce qui fait ruminer. Telle est son attitude par rapport à l'ignorance que Socrate a fait avouer aux habitants d'Athènes. Face à l'immensité des choses, l'ignorance est un lot commun. Mais la question n'est pas de savoir que l'on ne sait pas, ce qui est encore une manière de disqualifier le sens commun. Il s'agit plutôt d'oser imaginer ce qui insiste sourdement et fait ruminer, malgré les assurances des savoirs spécialisés, exprime une certaine saisie de l'immensité des choses, et cela même si l'on ne sait pas bien le dire.